Nous lirons dans Ésaïe 62, les versets 1 à 5. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Et dans Jean 2, les versets 1 à 11. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. »
Merci. Tu feras la joie de ton Dieu, ou ton Dieu sera enthousiasmé pour toi. Différentes traductions essaient de rendre ce que cette parole d'Ésaïe veut dire. Faire la joie de Dieu, réjouir le cœur de Dieu, est-ce une mission possible ou impossible ? Impossible peut-être, comme on le dit aujourd'hui, le Brexit, ou bien impossible, comme on le voit aujourd'hui, calmer les gilets jaunes. Il est dans la vie, effectivement, des missions qui sont impossibles. Et il me semble en tout cas que vouloir réjouir le cœur de Dieu, à mon sens, relève de ces missions impossibles, mais qui pourtant sont rendues possibles par la grâce de Dieu. Ce qui explique un peu les hésitations des traducteurs. Tu feras la joie de ton Dieu ou ton Dieu sera enthousiasmé par toi. Vous direz peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de nuances, mais si. La nuance, c'est que dans un cas, c'est l'homme qui essaie de réjouir Dieu. Et dans l'autre cas, c'est Dieu qui se réjouit de l'homme. C'est une grâce. Et la plupart des traductions, comme la traduction arménienne d'ailleurs, qui est une bonne traduction, a plutôt penché du côté de la grâce. Ton Dieu sera enthousiasmé pour toi. Mais de notre côté, lorsque nous avons dit ça, il ne faut pas oublier que toute l'Écriture aussi nous montre que cette grâce que Dieu nous fait, ce désir qu'il a de non seulement nous aimer, mais de se réjouir de nous, cette grâce s'inscrit dans un cadre. Il y a quelque chose qui la rend opérante ou pas. Et bien souvent, on le voit dans les textes, c'est finalement la foi et l'obéissance qui rend la grâce opérante dans tous les domaines de notre vie. Sans cela, la grâce ne sert à rien. Sans la foi et l'obéissance, et c'est encore même pire, la grâce n'est plus une grâce, mais elle devient une condamnation. Les textes que nous avons lus ce matin nous parle de joie, d'enthousiasme, de noces. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, les textes font souvent référence à cette symbolique du mariage, pour parler de la relation entre Dieu et son peuple, entre Jésus et son Église. Alors en quoi, ce matin, ces textes nous rejoignent? Quel message nous adresse-t-il? Comment Dieu peut-il se réjouir de nous? Je ne me tairai point, dit Ésaïe. Il me semble que les prophètes de l'Ancien Testament, comme Ésaïe et bien d'autres, sont pour nous un bel exemple de foi et d'obéissance. Ésaïe, on le voit ici, accomplit fidèlement sa mission. Il énumère avec foi une multitude de promesses pour son peuple. Il les exprime avec conviction, et lorsque, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je lis ces textes dans le livre d'Ésaïe, lorsque je lis ces prophéties, j'ai vraiment l'impression, pour celui qui les a écrites, j'ai vraiment l'impression qu'il y croit, mais pleinement, et c'est comme si elles étaient déjà faites. Alors que l'on sait aujourd'hui qu'elles mettront, pour certaines d'entre elles, 70 ans à s'accomplir, pour d'autres qu'elles mettront des siècles, puisque d'autres concernent la venue de Jésus, et pour d'autres encore, elles ne se sont pas accomplies. Ésaïe ne les verra même pas de son vivant. Et cela nous montre que ce n'est pas parce que des promesses de Dieu ne s'accomplissent pas de notre vivant qu'elles sont vaines ou fausses. Tout dépend de la foi que l'on y accorde. La foi et l'obéissance déclenchent toujours l'intervention de Dieu, l'accomplissement de ses promesses. Et cette intervention, elle demeure aussi une pure grâce. Mais cette intervention, on peut la voir comme ne pas la voir de notre vivant. Et ce n'est pas parce qu'on ne la verra pas qu'elle aurait été fausse ou qu'elle aurait été vaine. Il me semble que les prophètes sont un bel exemple pour nous de foi et d'obéissance. Foi et obéissance, c'est aussi ce que nous voyons aux noces de Cana, ce premier miracle de Jésus. Et quel miracle! Sans la foi des serviteurs et leur obéissance, il ne se serait pas passé grand-chose ce jour-là, si ce n'est que la fête aurait tourné court. Quelle idée aussi ce miracle! Pourquoi ce choix? Il y a ici beaucoup d'explications des commentateurs, des théologiens, qui sont toutes, je dirais, honorables. Celle qui me paraît la plus plausible, bien sûr, c'est que Jésus a voulu placer d'entrée de son ministère sous le signe de la joie. C'est que ce premier miracle nous montre que ce que Jésus est venu annoncer, ce qu'il va faire, ce n'est pas pour nous empêcher de vivre, mais bien au contraire, c'est pour nous réjouir. C'est pour que nous soyons joyeux, heureux. Il me semble que Jésus ait choisi aussi ce miracle-là pour commencer son ministère, parce qu'il fait référence à des noces. Et c'est comme si c'était une anticipation de ce qui allait se passer par la suite et de ce qui se passera dans l'éternité, dans ce que l'Apocalypse appelle les noces de l'agneau. Il me semble que cette idée est aussi, je dirais, approuvée par plusieurs des paraboles que Jésus a racontées, dans lesquelles il parle du royaume de Dieu comme des noces auxquelles nous sommes invités, comme des noces qui n'auront plus de fin dans le royaume de Dieu. Parce que l'Évangile est une bonne nouvelle, alors le premier miracle de Jésus sera de changer de l'eau en vin. Aujourd'hui encore, pour nous, la grâce du salut, l'accueil du salut, la foi en Jésus ne peut devenir opérante seulement par notre obéissance. Dans ce que nous croyons, dans ce que Jésus a accompli sur la croix, alors cette croix devient opérante pour nous. De même que la grâce du pardon de nos fautes, elle devient opérante par notre repentance. Sinon, elle ne sert à rien. Et pour toutes les promesses aussi de la parole de Dieu, elles deviennent réelles dans nos vies, elles deviennent opérantes réellement lorsque j'y accorde la foi et l'obéissance. On ne te dira plus l'abandonner, la délaisser. C'est ce qui découle directement de la grâce que Dieu nous fait en Jésus. Celui ou celle qui accueille la grâce de Dieu avec foi, on le voit ici dans le texte d'Ésaïe, obtient un nouveau statut. On ne te dira plus la désolée. On t'appellera celle en qui je prends plaisir. En hébreu, Epsipa. Alors je dis le nom Epsipa parce que chez les Arméniens, il y a des filles qui s'appellent Epsipa. Celle en qui je prends plaisir. Ce qui veut dire que en Jésus, Dieu prend plaisir en toi. En Jésus, tu n'es plus la désolée, tu n'es plus l'abandonnée. Quelque part, tu ne seras jamais plus l'abandonné. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu ne seras jamais plus la désolée. Même si tout semble te le dire, que tu es la désolée, que tu es l'abandonnée. Il suffit chaque fois de lever les yeux et de faire mémoire des promesses pour pouvoir à nouveau chasser tout sentiment d'abandon. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Toujours. Alors certes, parfois c'est étonnant, comme ici, changer de l'eau en vin quand même, à Cana. Pourtant, c'est ce que Jésus n'a pas hésité à faire. Ce qu'il n'a pas hésité à faire. Pour dire que parfois, la façon dont Dieu va agir dans nos vies, les portes qu'il va ouvrir, elles vont être vraiment surprenantes et puis peut-être parfois choquantes, je ne sais pas. À ce sujet, saint Augustin, lui, fait remarquer que finalement, ce n'est pas un miracle unique que Jésus a fait, mais que ce miracle, il le fait toujours, de changer de l'eau en vin. Saint Augustin explique que finalement, à chaque année, bien, Dieu transforme de l'eau en vin. Non ? Mais si. À partir de la pluie, à travers la terre et la vigne, avec les amis viticulteurs, il fait du vin. Mais tous les ans, il n'arrête pas, et chaque année. Et chaque année, il en fait. C'est de saint Augustin, c'est pas de moi. Mais n'empêche que je trouve ça intéressant, qui nous montre aussi la grandeur de Dieu. Le Seigneur n'est jamais dépassé par les situations. Et puis pour finir, ces textes qui nous invitent à la joie nous rappellent que nous sommes invités à sortir un peu aussi du cadre de nos besoins quotidiens et du recentrage sur nous-mêmes, pour nous recentrer sur Dieu. ton Dieu sera enthousiasmé pour toi. Combien de fois nous pensons que Dieu est content de nous? Qu'est-ce que Dieu ressent à notre égard? Le Seigneur mettra son plaisir en toi. En Jésus, Dieu prend plaisir en toi. Certes, c'est un langage humain qui nous est accessible. Difficile de voir comment Dieu peut réellement se réjouir de nous. Mais n'empêche qu'il nous révèle une vérité. Cette vérité, c'est que Dieu a un amour inconditionnel pour nous, mais qu'il a aussi de la joie, de l'enthousiasme de nous voir vivre avec lui. C'est quelque chose de joyeux pour lui. Je dirais que Dieu est content de moi quand je vis avec lui. Dieu est content de moi. Dieu est content de moi lorsque je vis avec foi, avec obéissance, ma vie quotidienne. Dieu est content de moi chaque fois que je mets en pratique une parole qu'il m'a donnée. Dieu est content de moi chaque fois que je crois à une promesse qu'il m'a adressée. Dieu est content de moi lorsque j'accueille sa grâce pour la première fois. C'est Jésus qui l'a dit. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu est heureux. Dieu est joyeux chaque fois qu'un seul pécheur se repent. Chaque fois que moi je marche avec lui, que j'ai foi en lui. Mais au-delà de tout, je crois que Dieu se réjouit de ce qu'un jour viendra où ce sera la grande fête dans le royaume de Dieu. Des noces qui n'auront plus de fin. Là où nous verrons tous les enfants de Dieu. Là où nous verrons même Abraham, Moïse. Et c'est extraordinaire quand on y pense. Voir Abraham. Hier, nous avions une après-midi œcuménique avec les enfants, et les enfants visitaient toutes les quelques églises d'ici les Moulineaux, et donc et à chaque étape, il y avait des jeux. Et un des jeux à l'étape ici, dans notre église, c'était de dire à quoi correspondent les vitraux, quelles étaient les scènes bibliques. Alors, les scènes bibliques, il y a celles qui sont très faciles à deviner, puis il y en a une qui est très compliquée, c'est celle qui est juste en face de moi. Et celle qui est juste en face de moi, personne n'est jamais arrivé à dire ce que c'était. Sauf une petite fille d'un coup, une petite fille catholique. Hein. Il dit, c'est Abraham. Je lui dis, mais d'où c'est qu'elle a sorti ça? Oui, c'est Abraham et son fils Isaac. Bravo. Dans le royaume de Dieu, nous verrons tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui nous suivront. Si Jésus a fait ce miracle à Cana, c'est bien pour nous dire que le royaume de Dieu, ça sera une noce, ça sera une fête, et une fête sans fin. Alors ton Dieu sera enthousiasmé pour toi. Oui, c'est vrai que Dieu peut être affligé, Dieu peut être attristé de la situation de ce monde, et je pense qu'en ce moment, il doit être bien attristé de ce qui se passe et de ce qu'il voit. Attristé aussi peut-être de nos vies chrétiennes, qui sont parfois un peu tièdes, pas très joyeuses. Puis peut-être affligé, attristé de nos engagements que nous ne tenons pas, de nos doutes, de nos vies chaotiques parfois. Mais voilà, Dieu peut se réjouir aussi en nous. Il peut faire de nous sa joie, simplement si nous marchons avec lui dans l'obéissance et la foi. Alors la question que se pose à nous, qui se pose à nous ce matin, c'est la suivante aujourd'hui. Dieu est-il enthousiasmé pour toi? La question n'est pas « es-tu content de toi ?» Mais est-ce que Dieu est content de toi? Alors, n'hésite pas, c'est très simple pour que Dieu soit content de toi. C'est d'obéir et de croire. Peut-être une conversion, peut-être une repentance, peut-être une décision de baptême, peut-être une décision de consacrer ta vie, peut-être un service dans lequel tu vas t'engager, auquel il t'a appelé. C'est tout pour que Dieu soit content. Il n'est pas difficile. Mon vœu, ma prière, c'est que la grâce de Dieu ne soit pas pour nous une grâce qui nous condamne, mais qu'elle soit une grâce opérante, avec foi et obéissance. Comme Ésaïe l'a été en son temps, comme il a vécu en son temps avec foi et obéissance, comme les serviteurs des noces de Cana ont eux aussi agi avec foi et avec obéissance, bien que nous puissions nous aussi vivre et agir avec cette même foi et cette même obéissance. Et alors oui, Dieu sera content, et je pense que nous aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.